Victoria. Il manque un couteau. Il est 4 heures du matin et je me suis levée discrètement pour faire l'inventaire. Evan s'est réveillé à 11 heures du soir, minuit, 2 heures et 3 heures du matin. Maintenant, il va sans doute tenir jusqu'à 5 heures. J'espère, en tout cas. Je n'ai pas dormi, mais ça n'a rien d'inhabituel. Les premières semaines de privation de sommeil sont les plus pénibles. Désormais, il y a si longtemps que je ne me suis pas reposée plus de 3 heures d'affilée que ce sont les nuits où je dors qui me mettent en vrac. Je suis dans le brouillard, j'ai un mal de chien à me ressaisir. C'est comme si, ayant enfin pu dormir, mon corps se rendait compte de ce qu'il rate et se rebellait. Comme je n'ai que faire des rébellions, je me donne des corvées nocturnes. Notamment, plusieurs fois par semaine, l'inventaire des ustensiles de cuisine. Il a dû prendre le couteau dans l'égouttoir. J'essaie d'être vigilante, mais je suis rarement à 100% de mes capacités. Ma motricité fine s'est dégradée au point que je laisse tomber des petits objets une demi-douzaine de fois par jour. Quand les gens me parlent, il y a des moments où je vois leurs lèvres remuer, mais sans comprendre ce qu'ils me disent. Un jour, Evan a regardé une émission qui expliquait que les soldats des forces spéciales doivent survivre plus de 96 heures sans dormir pendant la semaine infernale de leur formation. J'ai eu envie de hurler vers la télé. 96 heures sans blague! Essayez un peu 8 ans! Il est possible que je sois partie d'un rire hystérique. Ça m'arrive. Pour l'instant, j'essaie de mobiliser mes faibles capacités de résistance. À supposer qu'Evan ait pris le couteau dans l'égouttoir, il a disposé d'environ 3 à 5 minutes tout seul avant que je le découvre dans la cuisine. Il a dû le cacher. Pour ça, il est malin. Mais pas loin. Il n'aurait pas eu le temps de descendre au sous-sol. Et il ne pouvait pas non plus aller dans le couloir parce que je l'aurais entendu. Donc le couteau est tout prêt. Planqué quelque part dans la cuisine, la salle à manger, l'entrée ou le salon. Je devrais pouvoir le trouver, il suffit de réfléchir. Je me lève péniblement du carrelage de la cuisine. La pièce, éclairée par les seules lampes du plan de travail, est pleine d'ombre. J'en suis venue à désirer la solitude obscure de ces heures du petit matin où mon fils dort enfin et où j'ai 30, 40, 50 précieuses minutes pour moi. Je trouve une lampe de poche et je vais à pas de loup dans l'entrée où je m'immobilise pour guetter les bruits de l'étage. J'aperçois une lumière diffuse dans le couloir du haut. Elle vient de la chambre d'Evan. Il exige que le plafonnier soit allumé la nuit et qu'une radio marche comme en plein jour. Il ne supporte pas l'obscurité. Il est terrifié par le fantôme qui, croit-il, vit dans les ténèbres. Il arrive que le fantôme lui parle. Par exemple, il arrive qu'il lui dise de me tuer. J'aime mon fils. Je me souviens encore du premier instant où j'ai eu enfin la permission de le prendre dans mes bras. Je me souviens des jours et des nuits interminables où je l'ai bercé, où j'ai senti ses petites lèvres avides téter mon sein, du poids de son corps incroyablement petit lorsque, repu, il s'assoupissait. Je me souviens de l'odeur du talc, de la douceur soyeuse de ses cheveux fins, de ses soupirs quand il se blottissait contre moi. Evan est né 10 semaines avant terme. J'aimerais pouvoir dire que ce sont des choses qui arrivent, mais d'après le médecin, c'était entièrement de ma faute. À l'époque, Michael et moi menions une existence merveilleusement superficielle. Nous vivions à Cambridge, dans une gigantesque et vieille maison de style 18e, que nous avions rénovée avec soin pour qu'elle soit en harmonie avec les autres demeures historiques du quartier. Michael, vice-président d'un grand établissement financier de Boston, travaillait beaucoup, et de mon côté, je me créais un réseau auprès de nos voisins aisés en tant que décoratrice d'intérieur très demandée. Je concevais des cuisines pour des médecins, des habillages de fenêtres pour des avocats, et des canapés sur mesure pour divers athlètes professionnels. Michael et moi avions tous les deux grandi dans la gêne. À présent, nous notions sans complexe nos journées en fonction des vêtements de créateurs que nous avions achetés, ou des étoiles montantes du tout Boston que nous avions rencontrées. J'intercalais des soins du visage à plusieurs centaines de dollars entre 2 visites chez de petits antiquaires, tout comme Michael remplissait son agenda de déjeuners d'affaires et de places dans les loges pour divers événements sportifs. Les week-ends, c'était le Cap Cod en été ou notre lodge dans les montagnes blanches en hiver. Ma grossesse fut encore l'occasion d'une course à la consommation ostentatoire. J'ai commandé des pulls en cachemire de chez P&Pod, de la layette chez Burberry et, cela va sans dire, un landau anglais. J'ai refait la chambre d'enfant du sol au plafond. Je me suis mise au yoga et j'ai renoncé à mon café du matin au profit du thé vert déthéiné. Rien ne serait trop beau pour notre enfant, rien. Michael m'a offert un pendentif en diamant, un cercle de vie de 2 carats, histoire de poser sa marque sur son élégante épouse en cloque. Il a aussi pris l'habitude de m'emmener tous les samedis soirs dans un nouvel endroit branché de Boston où nous dégustions les menus gastronomiques, en remarquant avec humour que ce genre de soirée appartiendrait bientôt au passé. Il buvait des gin toniques, je prenais du jus d'érelle. Nous ne rentrions qu'à 2 heures du matin, simplement parce que nous le pouvions, mais aussi parce que, au fond nous-mêmes, nous n'étions pas vraiment fâchés que notre vie soit sur le point de changer. Nous nous aimions, réellement. Et comme tant de jeunes mariés, nous étions persuadés qu'il n'existait aucune situation que nous ne puissions affronter, aucun défi que nous ne puissions relever, aucun obstacle que nous ne puissions surmonter du moment que nous étions ensemble. Et là, à mon insu, une infection bactérienne s'est développée dans mon utérus. Extérieurement, je paraissais en bonne santé, pleine de vitalité, rayonnante. Intérieurement, j'avais commencé à empoisonner mon enfant à naître. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs du trajet en ambulance. J'avais perdu du sang, beaucoup. Tracy, ma voisine, a eu le bon réflexe et a appelé les secours. Elle s'est assise au fond, à côté de moi, m'a tenu la main pendant que les ambulanciers découpaient mon pantalon de grossesse en daims et braillaient des ordres qui m'effrayaient. Où étaient les paroles de réconfort, celles qui vous disent que ce n'est qu'un petit incident de parcours ? Votre bébé va très bien, madame, aucune raison de vous inquiéter. J'ai perdu connaissance à la clinique. Michael est arrivé quelques minutes après l'ambulance. D'après ma voisine, il me serrait la main avec une telle violence que les médecins ont dû lui écarter les doigts de force pour m'emmener faire la césarienne en urgence. Et là, bon gré mal gré, Evan Michael Oliver fut mis au monde. Il pesait 1,470 kg. Quand je l'ai vu pour la première fois, il était grand comme un chaton, posé au milieu de la couveuse avec une demi-douzaine de fils et de sondes qui pendaient de son minuscule corps fripé. Sa peau était couverte de duvet et si translucide qu'elle paraissait bleue, mais c'était la couleur de ses veines, tissées comme une fine dentelle sous la surface. Il lui fallait l'incubateur pour le réchauffer, un ventilateur relié à un mélangeur pour l'aider à respirer et une sonde gastrique pour l'alimenter en nutriments essentiels, un tensiomètre et un moniteur cardiaque. Et puis il y avait aussi l'aspirateur de mucosité, les perfusions et divers autres fils pour qu'Evan puisse combattre l'infection tout en terminant la maturation de ses organes. Il vivait dans la couveuse fermée comme une poupée en porcelaine dans une vitrine. Nous avions le droit de le regarder, mais pas de toucher. Alors nous restions là de brefs instants, côte à côte, avec cette terrible sensation qu'on éprouve quand il n'y a pas seulement un problème, mais un problème. Et qu'on attend que ça s'arrête pendant que les spécialistes vous abreuvent de paroles. La psychologue nous a gentiment suggéré d'appeler nos parents. Vous n'avez pas affronté cette épreuve tout seul. Demandez de l'aide à votre entourage, appuyez-vous sur votre famille et vos amis. Michael, le visage fermé, n'a pas décroché un mot. La psychologue a fini par comprendre et s'éclipser. Ce n'était pas de sa faute si nous n'avions ni famille ni amis, du moins pas au sens où elle l'entendait. Ma mère ne m'avait jamais pardonné de devenir plus jolie qu'elle, et les frères et sœurs de Michael passaient le plus clair de leur temps derrière les barreaux. Il y avait des années que nous n'attendions plus rien de leur part. Nous étions ensemble, et nous répétions-nous sans cesse, c'était suffisant. J'ai eu envie de hurler pendant cette première journée. Je n'avais chaque fois le droit de voir Evan que quelques minutes au service de néonatologie, et ensuite c'était retour à ma chambre, où je me couchais sur le côté, ce ventre tout flasque qui m'avait trahi étalé devant moi. Les infirmières m'apportaient des médicaments. La spécialiste de l'allaitement m'a appris à me servir du tire-lait. J'étais censée dormir, ne penser qu'à récupérer. Je passais l'essentiel du temps allongée dans le noir et je me repassais indéfiniment le film des 30 semaines qui venaient de s'écouler. Était-ce la gorgée de champagne que j'avais bu pour le nouvel an? Ou les émanations de la peinture que j'avais choisie pour la chambre d'enfant? À quel moment avais-je échoué? Si seulement je pouvais mettre le doigt sur cet instant et revenir en arrière. Michael faisait la navette entre le service de néonatologie et ma chambre. Le teint cireux, il ne savait plus qui de sa femme tout juste opérée ou de son fils à peine capable de respirer avait le plus besoin de lui. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Il se contentait d'aller et venir, 10 minutes dans cette chambre, 10 minutes dans l'autre, comme si le mouvement lui permettait de garder le contrôle de la situation. ses cheveux bruns grisonnèrent du jour au lendemain. Ses épaules robustes semblèrent se voûter. Mais il ne cessait de marcher, d'une chambre à l'autre, d'un service à l'autre, investi d'une mission. Je pensais qu'Evan dormirait nuit et jour, consacrerait toute son énergie à grandir, mais inévitablement, lorsque les infirmières replaçaient ses perfusions ou sa sonde, il se réveillait et nous observait avec de grands yeux, comme s'il cherchait à tout assimiler de cet étrange nouveau monde. « C'est un battant !» disaient les infirmières, qui riaient de voir ses poings s'agiter et entraver leurs gestes. « C'est bon signe, ma jolie. Evan est un petit dur. » Et lui agitait ses petites jambes maigres comme pour approuver. On m'a donné le droit de toucher sa joue. Et un jour, j'ai enfin pu le prendre contre moi. Michael se tenait à côté de moi et sa main étreignait mon épaule à m'en faire mal. Evan a de nouveau ouvert les yeux. Il nous a regardés tous les deux, avec ses billes si rondes dans sa petite tête rabougrie. Et nous avons fait ce que font les parents au service de néonatologie. Nous avons promis de tout donner. Notre somptueuse demeure, nos vêtements de créateur, nos carrières égocentriques. Nous avons tout promis, nos vies même. Nous renoncerions à tout ce qui faisait ce que nous étions, nous. Nous ferions tout ce qu'il y aurait à faire, nous perdrions tout ce qu'il y aurait à perdre. Pourvu que notre fils vive. Je ne retrouve pas ce couteau. J'ai cherché autour du ficus, entre les lames du parquet, dans les replis du rideau en lambeaux. Je soulève les coussins du canapé, j'inspecte les moindres recoins du matériel IFI, j'explore le dessous des meubles et le dessus des placards avec ma lampe de poche, je connais les cachettes préférées d'Evan. Le couteau ne se trouve dans aucune d'elles. Il l'a. Je sais qu'il l'a. Il s'est montré plus malin que moi. Le soleil va bientôt se lever. Je vois le bord du ciel nocturne s'éclaircir et je me sens d'un seul coup tellement submergée de fatigue que j'ai envie de pleurer. « Maman ?» Je me retourne d'un seul coup. Evan est derrière moi. Il porte son pyjama à la guerre des étoiles préférée et garde ses mains jointes dans son dos. Je suis trop essoufflée. Comme j'ai la lampe de poche en main, je la braque sur son visage blême. Je ne veux pas qu'il voie à quel point il m'a fait peur. « Evan, montre-moi tes mains. » « Je veux voir Chelsea. Pas tout de suite. C'est le matin, maman ?»« Non, mon cœur, c'est encore la nuit. Qu'est-ce que tu as dans ton dos, chérie ?»« On peut voir Chelsea ?»« Pas maintenant, » répétais-je avec fermeté, toujours guettant ses mains, toujours attendant de voir ce qu'il va faire. « Je veux aller au parc. » »« Dans la matinée, chérie. »« Je veux me faire un nouveau copain aujourd'hui. » »« Evan, demi-tour maintenant, c'est l'heure de dormir. » Evan tend brusquement les mains. Il les retourne, paume en l'air, pour que je constate qu'elles sont vides, qu'il ne tenait rien. Il a l'air candide, mais en l'observant, je vois cette ombre qui passe au fond de son regard, ce petit sourire au coin des lèvres. Il sait ce que je cherche. Il sait qu'il l'a et que j'ignore comment réagir. L'ombre passe à nouveau dans son regard et je lutte contre le frisson qui me parcourt l'échine. Evan n'est pas le seul à avoir peur du fantôme dans cette maison. Je prends une grande inspiration. J'éteins la lampe et je pose une main sur l'épaule de mon fils. Son corps est détendu sous mes doigts. Il me laisse le conduire dans l'entrée, à l'étage, puis, guidé par la lumière vive, à sa chambre où je le recouche dans son lit. Il est déjà à moitié endormi, les paupières lourdes, lorsque je repousse quelques mèches blondes sur son front. « Je t'aime jusqu'à la lune et retour. » murmure-t-il, une phrase qui sort de son livre préféré. Je lui caresse la joue. « Moi aussi, je t'aime. »« Je ne veux pas te faire de mal, » dit-il d'un air rêveur déjà gagné par le sommeil. Ses yeux bleus se rouvrent. « Mais je le fais. »